une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Bonjour, jetzt geht's los, wir am Rassingel, immer wieder mit unserer Sendung Mormira Plätzle sur Radio Judaïka. Fais-moi une place, c'est presque un marronnier et ça fait 4 ans que ça dure. Je suis fidèle à Radio Judaïka qui m'a fait une belle place et que j'ai saisie et que je ne quitterai plus jamais. Yaya, mais Müller, dis-nous plutôt qui est ton invité. Tu es presque bavard comme une vieille pie. Ah, c'est une journaliste baroudeuse du petit écran que vous connaissez tous, Sylvie Malal. Elle est aussi présidente de l'association Mazava, Vent et Soleil de Madagascar, pour venir en aide aux villageois du sud de l'île, là où les femmes, les hommes, les enfants vivent dans une extrême précarité, sans eau, sans ressources, sans rien. Une association basée à Strasbourg qui tend la main là où le monde souvent détourne le regard. Bonjour chère Sylvie Malal, je suis très heureux de t'accueillir sur les ondes du 102.9, pardon, Radio Judaïka.
Bonjour André.
Ça me fait plaisir.
Je suis heureuse d'être là aussi.
Écoute, on mettra bientôt le nom sur un siège parce que tu es une habituée de la radio
c'est
de
vrai,
chez nous.
C'est vrai, je ne compte plus le nombre de fois où tu... Mais c'est toujours avec plaisir, hein, ce micro... Et parler avec toi de ce qu'on fait, de ce que je fais, de ce que beaucoup de nos amis font à Strasbourg
pour cette association Mazava
et pour ce pays, c'est toujours un vrai bonheur.
Mazava, c'est quoi exactement? Ça veut dire quoi en malgache, Mazava?
Mazav, ça veut dire c'est clair, c'est lumineux.
Ah, c'est, comme toi, t'es lumineuse.
En fait, c'est vraiment histoire de s'ouvrir et de faire confiance en l'avenir, même si parfois on a un petit peu du mal. Mais malgré tout, on veut rester positif.
On a tellement d'énergie dans cette association qu'on va y arriver, Sylvie. Je suis persuadée. Il y a telle énergie, tellement de gens sympas. Et c'est presque une petite famille. On se donne la main et on travaille, on œuvre pour l'au-delà, pour les gens que tu connais, parce que toi, tu es native de là-bas, de Madagascar.
Oui, et c'est vrai que cette énergie, elle nous porte tous. Et ça fait partie de ces choses dans une association, de toute façon. Alors, c'est sûr qu'on travaille pour... on se met au service d'une cause de personnes, etc. Mais c'est aussi parce qu'on a bien envie d'être là, parce qu'on est tous bénévoles.
Absolument.
Et donc, il faut absolument qu'on y trouve, nous aussi, de la joie et du bonheur d'être là. Sinon, on fait mal les choses.
On fait
bien les choses
que quand on les aime. Oui, mais ça, on l'a. Quand on se rencontre, c'est ce qu'on...
Et c'est vrai que cette énergie-là, ça nous galvanise.
Absolument. Alors, je sais que tu pars dans une poignée de jours à Madagascar. Et hier, dans ce pays, le pays était en feu, il y avait une révolution. Et cette révolte est venue des quartiers populaires, je crois, des grandes villes.
Elle est venue, effectivement, elle est venue, en fait, de la société, des jeunes, plus précisément.
Des moins de 20 ans.
Voilà, qui se rassemblent sous la bannière de la Gen Z. La Gen Z, c'est la génération des jeunes qui sont nés entre, en gros, 1990 et 2010. Voilà, qui ont aux alentours de 25-30 ans aujourd'hui et qui ont envie de se réapproprier leur avenir. Donc, ils sont descendus dans la rue et ils ont entraîné avec eux le reste de la société, de la population, qui est confrontée aux mêmes problèmes.
Même problème, mais c'est un ras-le-bol générationnel,
voilà,
on peut le dire, ça.
Oui, c'est générationnel parce que c'est... Surtout générationnel parce qu'ils ont l'impression que les aînés ont été un petit peu paralysés.
Ne tiennent pas compte d'eux, quoi.
D'abord, peut-être ça, mais aussi se sont laissés un petit peu faire de façon un peu passive. Et c'est quand même un pays où aujourd'hui, on vit sans eau, sans électricité, même quand, a priori, on vit dans une grande ville où on est raccordé au réseau d'eau et d'électricité.
Ouais.
Mais simplement, les infrastructures sont tellement abîmées qu'on peut arriver à avoir des coupures d'eau pendant des mois.
Aïe, aïe.
Et alors, il faut se lever à 4 heures du matin
pour chercher de l'eau,
soit dans des jerrycans, soit aux bornes fontaines, lorsqu'il y en a.
Ouais,
donc,
il
y a des queues de quelques centaines de mètres qui s'installent. Ou alors, parfois, le robinet s'ouvre sans prévenir à 3 heures du matin.
Ah,
alors,
oui,
on vient vite
cool.
et on essaye de... Voilà, donc toute la journée... Et basé autour de ça. Et l'électricité, pareil. Donc, ça veut dire que quelqu'un, je dis n'importe quoi, qui a un petit commerce avec, par exemple, un frigo ou un congélateur, bah, quand il y a une panne d'électricité, bah, lui, il peut foutre toute sa marchandise à la poubelle. Et c'est ça pour tout le monde.
Et donc là, tu t'en vas dans quelques jours. Il n'y avait pas d'avion il y a encore très peu de temps. Les avions circulent, volent de nouveau.
Oui, les avions volent de nouveau. En fait, l'aéroport a fermé pendant pas très très longtemps, en fait, pendant, il me semble, 2 jours. Et après, il y a des compagnies aériennes, effectivement, qui ont également suspendu leur liaison entre l'Europe et Madagascar pour des raisons de sécurité. Mais là, les vols ont repris, l'aéroport est ouvert. Et en fait, comme le pays compte quand même beaucoup sur le tourisme, c'est important que les choses redémarrent.
Et les gens reviennent,
Et les gens... Alors, il y a eu énormément d'annulations. Hein. Maintenant, je pense que le bilan n'est pas encore fait, mais c'est clairement, évidemment, tout ça va laisser des traces. Mais en même temps, ces revendications-là sont légitimes.
Positives.
Ouais, et légitimes.
Absolument.
Ouais,
et légitimes.
Ouais. Et légitimes.
Et toi, en fait, tu n'as pas peur. Tu y vas avec l'avion, tu es courageux, enfin courageuse, tu vas y aller, c'est ton pays, tu vas retrouver un peu tes gens que tu connais, que tu côtoies de l'association également, qui sont là-bas en place.
Oui. Ben, c'est vrai que pour que cette association fonctionne et pour que nos projets fonctionnent, Il faut, même si on a des relais sur place, si on a des personnes qui travaillent avec nous sur place et qui font avancer les projets, il faut quand même y aller, parce que sinon, l'écart, en fait, devient trop grand. Même si on essaye de se tenir au courant, on s'appelle régulièrement, etc. Mais il faut vraiment être au contact avec les gens pour arriver à les comprendre, pour avoir pour qu'il n'y ait pas de distance qui s'installe au sens propre et figuré. Quoi.
C'est quand même un travail colossal, tu es tout le temps en relation, tu es tout le temps en train de travailler.
Ouais, c'est quasiment un deuxième boulot, sauf que celui-là, il n'est pas payé.
Bon, tu es présidente, donc il faut assumer.
Oui, voilà, exactement, c'est ce que je me dis. C'est moi qui l'ai voulu, je ne vais pas venir me plaindre.
Mais on est heureux que tu sois notre présidente. Alors, dis-moi, je sais aussi que j'ai lu ça dans la presse comme toi, les militaires sont au pouvoir pendant 2 ans, je crois.
Oui. Hein? Oui. En fait, les jeunes sont descendus dans la rue. Au départ, ils demandaient tout simplement à avoir de l'eau et de l'électricité.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire des droits fondamentaux,
vivre,
et un avenir digne. Ouais. Et en fait, ils n'ont pas été pris au sérieux. En fait, ils ont été. Cette contestation-là a été réprimée de façon très très violente. Ce qui fait qu'en une dizaine de jours, il y a eu plus d'une vingtaine de morts que le pouvoir en place ne reconnaissait pas. Donc ça s'est envenimé. Quelque chose qui au début était stable s'est envenimé. Du coup, ils ont fini par réclamer le départ du président
de
l'époque, Andrzej Duda, qui est parti, qui s'est enfui et réfugié d'après les dernières nouvelles à Dubaï. Mais il a été exfiltré par un avion français.
Militaire français.
Ça,
c'est curieux.
Voilà. Donc il y a pas mal de gens qui sont partis, et les militaires, à un moment, se sont dit, bon, nous, on va rétablir l'ordre pour éviter que la situation dégénère. Maintenant, il faut voir, rétablir l'ordre, la majorité des Malgaches, je crois, étaient d'accord, mais sous surveillance, maintenant. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les militaires s'installent à demeure, pour de vrai, que ça devienne...
On connaît les histoires du Burkina Faso, parce que ils tiennent rarement leurs promesses, les militaires. Ils ne tolèrent pas trop les contestations.
Ils se sont engagés à nommer un premier ministre issu de la société civile. C'est ce qui a été fait, parce qu'un premier ministre qui n'est pas militaire a été nommé et qui va maintenant former un gouvernement. Mais tout ça reste quand même avec un gros point d'interrogation.
On va surveiller.
Est-ce que l'ordre ancien va revenir? Est-ce que ça va être récupéré, etc. Mais en tout cas, les jeunes semblent déterminés, en tout cas, à se faire.
Ils ont bien raison. Ils sont courageux.
Ils ont réussi à faire tomber quelque chose
c'est extraordinaire.
Que personne n'a pu le faire
depuis toujours.
Voilà.
Extraordinaire.
Donc ça, c'est
C'est une vraie révolte. Parle-moi un peu. Maintenant, on va parler un peu de ton voyage. Tu vas aller dans le sud de l'île, je crois. C'est ça.
Oui. Je vais aller. Alors,
s'appelle Fort Dauphin.
Fort Dauphin, c'est
l'extrême sud de l'île.
C'est l'extrême sud et c'est la principale ville de cette région.
Là, c'est là où tu vas aller.
Et c'est là où je vais aller, entre autres, parce que on a des projets. On développe des projets dans le centre du pays et dans le sud.
D'accord.
Donc effectivement, je vais aller aussi dans ce sud.
Dans ce sud. Ouais.
Alors Fort Dauphin, c'est la principale ville, mais nous, on va pas rester à Fort Dauphin. L'idée, c'est.
Tu vas en 4x4 là-bas.
Fort-Dauphin, malheureusement, je vais devoir y aller en avion parce que sinon, en voiture,
c'est les routes sont tellement... C'est 8 jours de voyage.
Oui, en gros, oui. Bah, aller-retour, c'est facilement.
C'est la Nationale 7, non, je crois
Non, c'en est une autre. La Nationale 7, ça va encore. Mais celle-là, c'est... je crois que c'est la 10. Ou...
Ah, voilà.
Et donc, effectivement, c'est 3 jours aller, 3 jours retour si on va. Donc là, j'y vais en avion jusqu'à Fort-Dauphin et ensuite, effectivement, 4x4 jusqu'au village où on a effectivement nos
Dauphin, ça veut dire quoi, le Fort-Dauphin
Fort-Dauphin,
c'est quoi,
en fait,
Dauphin?
Pourquoi le dauphin, c'est pas l'animal, le mammifère marin, l'animal marin. C'est Fort Dauphin, c'est parce que dauphin, c'est comme le dauphin du roi.
Du roi de Louis XIV.
Parce que, ouais. Voilà, absolument.
C'est pas
parce
le fou
que...
du roi, c'est non, le dauphin du roi.
Parce que c'était un comptoir français à l'époque, et qui, au XVIIe siècle, hein, il me semble, et donc ça a été. Ça a été en hommage au dauphin du roi roi de France.
Belle histoire, voilà. Ouais, c'est une belle histoire. Alors, je sais aussi que le Fort Dauphin, il y a des paysages exceptionnels, c'est niché entre les montagnes. Fais-moi un tout petit peu rêver. Commencez par les plages, là, qui, le sable blanc. Avec...
C'est des montagnes qui se jettent dans la mer. C'est absolument magnifique. Hein. Avec de très, très belles criques de sable, de sable blanc.
Tu es déjà baigné là-bas ?
Oui, absolument. La plus célèbre plage de Fort Dauphin s'appelle Libanouna Beach.
Mm-hmm.
C'est vraiment
une carte postale.
Et puis, mais dès qu'on sort un petit peu, on a aussi des plages très minérales aussi. Enfin, des paysages très très minéraux autour de Fort Dauphin. Et puis en s'éloignant, on va vers les villages où nous on développe nos actions.
Et c'est là
de plus en plus désertique.
Et c'est là qu'il y a cette avenue avec les baobabs, c'est dans ce coin-là ou pas ?
Alors c'est dans le sud également, mais plutôt vers l'ouest.
Ah,
cette fameuse allée des baobabs,
ça me fait rêver.
Cette fameuse allée des baobabs, elle est très très belle.
Ah, ouais,
elle est
très belle. Il faudrait que j'y aille un jour voir ça. C'est trop beau ça. Ouais.
Et c'est vrai que ce sont des richesses à préserver.
Ah oui, absolument.
Tous ces paysages-là.
Ouais. Ouais.
Fort Dauphin d'ailleurs aussi.
C'est quand même dommage que cette île soit l'île la plus pauvre du monde, une des îles les plus pauvres du monde. C'est que c'est la corruption qui l'a mis dans cet état, je pense.
Beaucoup la corruption, en effet. Beaucoup la corruption de la mauvaise gestion, de
bien
la corruption, de cette façon de s'accaparer les biens pour quelques-uns au détriment de tous les autres.
Des
en
autres,
fait.
Absolument. Ouais.
Et au détriment de tous les autres. Et quand je dis tous les autres, c'est je pense mondial. Parce que ces trésors-là, c'est des trésors naturels, mais des trésors aussi qui peuvent servir... en termes de médecine, par exemple. Et ça, c'est un patrimoine mondial qu'il faut préserver pour nous tous, en fait, pas que pour les Malgaches.
Qu'est-ce que tu parles bien, Sylvie. On va écouter une petite musiquette pour se reposer les oreilles, une musique qui vient de... que tu connais bien, Talik, je crois qu'on a vu récemment.
Oui.
Talik,
bon,
qu'on a vu.
Après,
Vas-y voir, Thomas. Merci beaucoup. Sylvie Talike est très très connue à Madagascar.
Ouais,
c'est une chanteuse exceptionnelle, extraordinaire.
C'est une magnifique chanteuse, une magnifique personne aussi.
Personne. Ouais.
Et c'est une artiste qui, c'est l'une des artistes emblématiques de Madagascar et du sud de Madagascar parce que
tu connais bien en fait.
Que je connais bien, qui est une amie. et avec laquelle on a la chance de pouvoir développer des projets dans le sud du pays. D'ailleurs, elle était à Strasbourg, hein, à notre habitation, il y a quelques semaines, à l'Aubette, hein, pour un concert dans le cadre du Forum des Peuples Racines. Le Forum des Peuples Racines nous avait prêté l'Aubette, parce qu'eux-mêmes exposaient dans cette magnifique salle strasbourgeoise, ce qui nous a... ce qui était une super opportunité pour nous de pouvoir organiser un concert avec le moins de frais possible.
Et puis il y avait du monde. Hein,
et il y avait du monde, on avait tablé sur une centaine de personnes et on a dépassé les objectifs.
Oui, c'était bien. Alors ouais. Une personne qui a chanté avec un guitariste, ouais, elle a une voix juste exceptionnelle. Ouais. Elle était habillée comme les malgaches,
pieds nus, traditionnels du sud.
Elle avait une voix. Alors moi, ce qui m'avait plu dans le concert, c'est qu'à un moment, elle disait d'une rive à l'autre... Il y a comme des... C'est pas des tam-tams, elle a une voix pour parler avec les autres. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça exceptionnel, extraordinaire.
Oui, c'est la voix qui porte, effectivement.
Qui porte. Et qui rapporte.
Et qui rapporte aussi.
et c'est aussi une façon de faire connaître Mazava à Strasbourg, que les gens connaissent plus notre association.
Oui, c'est vrai, parce que nos projets, effectivement, sont à destination des populations précarisées à Madagascar. Mais nous, on est une association strasbourgeoise basée à Strasbourg, avec dans l'association énormément d'Alsaciens. D'ailleurs, les Alsaciens sont majoritaires.
On est combien de membres ?
Nous sommes dans le comité une quinzaine, c'est-à-dire tous ceux qui sont opérationnels, c'est un groupe d'une quinzaine de personnes. Et les membres adhérents, on doit être aujourd'hui une soixantaine, mais on est toujours ouvert à de nouvelles adhésions, évidemment. C'est 30 euros l'adhésion. Pour l'année.
Est-ce qu'il y a rien, ouais. Est-ce que c'est 30 euros ? Est-ce que ces gens de cette association, est-ce qu'ils ont des idées ? Est-ce qu'ils sont là pour... Est-ce qu'ils vont donner un coup de main pour faire plein de choses ?
Bien
Ils
sûr.
Sont toujours volontaires pour faire plein de
bien
choses.
Bien sûr. Et là, on en revient à la nécessité aussi d'être visible en Alsace, puisque c'est grâce à des événements qu'on organise ici, en Alsace, notamment, qu'on arrive à lever des fonds pour mener nos projets à Madagascar.
Et parle-moi des projets.
Taliké, le concert de Taliké, c'était ça. C'était aussi pour récolter des fonds pour pouvoir financer nos projets dans le sud.
Et c'est quoi, par exemple ?
Tu mets des... Dans le sud,
des arbres.
Voilà, l'idée, c'est... Le sud, c'est désertique. Et plus c'est désert, moins il pleut. Et plus le vent, il y a des vents de sable qui assèchent tout. Donc c'est de reverdir un petit peu tout à la demande aussi des habitants toujours. Donc on commence par créer des pépinières, former des gens pour ces pépinières avec des essences locales.
Des arbres qui
supportent des conditions
extrêmes,
voilà, d'aridité, de chaud, etc. Et donc cette pépinière, ensuite on va pouvoir dispatcher des arbres auprès des personnes qui ont été formées et qui veulent
replanter.
Et on va aussi, l'idée c'est de créer une toute petite forêt expérimentale, une forêt nourricière expérimentale aussi, et peut-être pouvoir dupliquer ce système.
Après, tu as aussi mis des réserves. Vous avez mis des réserves d'eau, je crois, des bassins, des écluses.
Alors les bassins, c'est justement Taliké, cette chanteuse qui vit dans le sud et qui a une association. C'est elle qui a ses points d'eau, qui construit ses points d'eau. Et nous, on vient créer nos pépinières autour de ces points d'eau. Alors les points d'eau, c'est parce que sinon, dans le sud... il faut parfois faire 3-4 jours de route en charrette
pour chercher de l'eau.
Wow. Donc là, l'idée, c'est de rapprocher un peu les points d'eau des habitants, de multiplier les points d'eau des habitants.
Parce qu'il y a des sources souterraines, c'est de là que vous puisez.
Alors les sources, la nappe phréatique, elle est bien trop profonde, donc ça, c'est compliqué. Pour l'instant, elle ramène de l'eau de rivière et en camion-citerne.
Wow.
Après, les personnes achètent l'eau. Hein. De toute façon, l'eau n'est jamais gratuite, donc ils achètent. Et c'est le prix, le rachat de cette eau qui permet de remplir un nouveau camion-citerne. Voilà. Donc ça se fait, c'est un circuit...
Ça ne coûte rien là-bas.
Voilà.
Je pense que ça ne coûte pas très cher. Si.
L'eau, rapportée à la vie, au niveau de vie des gens,
c'est très cher.
Ouais. Oui, parce que c'est 1 euro le bidon de 20 litres.
Ah ouais.
C'est énorme. Ouais, parce qu'il y a des gens qui... on dit toujours que... le seuil de pauvreté, c'est vivre avec moins de 2 euros par jour. Mais combien de personnes n'ont pas les 2 euros par jour ?
Non, pas les 2 euros là-bas.
Et donc, un euro pour l'eau, c'est déjà énorme.
Donc ce qu'on fait ici est énorme pour les gens de là-bas.
Et ce qu'on fait ici est énorme pour les gens de là-bas. Et là je reviens à la révolte des jeunes là qui manquent d'eau à Tana et dans les grandes villes, mais eux dans le sud, ils ont toujours vécu quasiment sans eau parce que voilà, alors que c'est pas une fatalité. Ouais. C'est pas une fatalité, on peut faire en sorte que l'eau de pluie, quand elle existe, puisse être gardée, récupérée, que la terre puisse de nouveau être riche, etc. Enfin voilà, on travaille avec des ingénieurs agronomes qui nous aident, qui nous conseillent pour qu'on fasse pas non plus n'importe quoi.
Comme disait Coluche, les ingénieurs de Grenoble.
C'était drôle. Les ingénieurs de Grenoble, voilà.
Alors, je sais aussi que tu viens beaucoup en aide, enfin nous, l'association vient beaucoup en aide aux enfants. Raconte-moi un peu les enfants, les sourires des enfants, c'est comment là-bas? Ils sont presque en haillons, pieds nus.
Les enfants, on vient en aide. Oui, effectivement, les enfants, ils manquent de tout. Beaucoup d'enfants manquent de tout. Quand les parents manquent de tout, forcément, les enfants manquent de tout. Et pourtant, les enfants, c'est l'avenir. Et donc, quand on vient en aide aux enfants, en fait, on prépare l'avenir, tout simplement. C'est une évidence, là. On enfonce des portes ouvertes, mais pourtant, il faut le rappeler de temps en temps. Et c'est pour ça que, et même par rapport aux parents qui, parfois, baissent un peu les bras, déjà, parce qu'ils ont déjà vécu tellement de choses, eu tellement de revers, et ils sont tellement fatigués, que les enfants, ils sont encore pleins d'énergie. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut les soutenir et leur dire, oui, c'est possible et un avenir est possible.
Et qu'est-ce que tu fais pour les enfants? Tu leur donnes à manger, je crois, dans les écoles maternelles. L'association paye les repas.
Oui, une cantine à l'école de Didine. Là, on est au centre du pays, là où on a un village partenaire également. Donc, une cantine qui fonctionne 4 jours par semaine, contre une seule journée l'année dernière, donc là
ils mangent quatre jours
par semaine, ils peuvent manger
ils
à la cantine.
Du riz.
Alors le menu des Malgaches, c'est il faut du riz.
Bah, c'est bien.
Alors
c'est
quand
ça,
on n'a pas de riz, c'est tant qu'on a un peu d'argent, il faut du riz. Donc nous, c'est du riz évidemment qu'on leur offre, et c'est pour ça qu'on pousse vraiment aussi à développer un jardin dans cette école. Pour pouvoir
et ça pousse
avoir
là-bas dans cette terre
un
rouge.
Jardin avec... Oui. Et les légumes poussent dans cette terre rouge, voilà. Et c'est pour tout ça qu'on a besoin d'argent. On a besoin de financement, avec nos adhérents, mais aussi avec les événements qu'on mène ici. Donc on a parlé de Taliké, mais voilà, on a cette vaisselle
des chefs,
la braderie des chefs.
Qui est donc au début du mois de décembre.
Voilà, au début du mois de décembre. Et on compte énormément sur cet événement pour financer
nos projets
à destination des enfants.
C'est au pavillon Joséphine. Hein.
Ça va se passer au pavillon Joséphine. Effectivement, la ville nous a mis les locaux à destination.
Ce qui est extraordinaire.
C'est un super.
On remercie le responsable
vraiment,
des événements, l'homme politique,
vraiment,
qui nous a beaucoup aidés.
Mais ça a été très très bien parce que du coup, on peut effectivement consacrer tous les bénéfices.
Qu'on emmènera pour les
projets à destination des enfants.
Et là, en fait, on a pléthore de vaisselle au pavillon Joséphine. On a collecté tellement de choses depuis le printemps.
Il me semble que les chefs ont été, c'est notre deuxième édition, et que les chefs ont été encore plus généreux
que d'habitude,
cette fois-ci
que
la dernière fois où ils étaient déjà. La dernière fois,
déjà,
ça
on
nous
a
avait
eu
permis
de
on a eu quand même 10 000 euros
qu'on a envoyé là-bas. T'imagines ce que c'est, 10 000 euros? C'est extraordinaire.
Et cette année, il me semble.
On va faire une performance.
Il me semble que tu es plus au courant que moi, de ce qu'on a déjà et des chefs qui ont été absolument.
On a collecté en Allemagne, de l'autre côté du Rhin, chez nos frères, dans un bel hôtel étoilé à Rothes, qui est à côté de Bayersbrunn. Le chef du sauna, l'hôtel s'appelle Le Sauna, il nous a donné de la vaisselle comme jamais. On a toute la vaisselle en porcelaine du petit déjeuner d'un hôtel qui compte une centaine de chambres. Vous imaginez les théières, les cafetières, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et en partant, il nous dit, le lendemain, il me rappelle, André, on a encore des verres, tu veux 300 verres? On est retourné d'Ardard avec Claude Muller, mon ami qui a une camionnette.
Mon complice,
c'est des deux Muller. Et donc on est allé là-bas, il nous a encore donné toutes les nappes qui valent des nappes de qualité où tu peux pas maître de tâche, ce genre de choses. Et il m'a dit, André, aujourd'hui, si tu pouvais acheter ces nappes, ça vaut presque 50 000 euros il y a 10 ans, c'est ce qu'on a payé. C'est, donc, c'est des nappes qu'on va vendre, bien sûr.
Aujourd'hui, d'ailleurs, n'existent plus.
Voilà. Et on va les trier cet après-midi chez Claude Muller, là, mon ami.
Donc, si vous voulez en acheter, il faut venir là, parce qu'il n'y a pas de magasin qui vend la même chose.
Non, on n'aura jamais ça. Puis on a de la vaisselle, de la chenaudière, enfin, des choses, des chefs étoilés. Ils ont été tellement généreux. Et là encore aujourd'hui, on va partir tout à l'heure, après notre émission, on va partir à Saverne, au Clos de la Garenne, où Sébastien nous donne aussi des verres en porcelaine. Enfin, pas en porcelaine, mais en cristal, pardon. Et donc voilà ce qu'on a fait.
Enfin, en tout cas, moi, je voulais profiter de cette occasion et de ce micro pour vraiment remercier tous ces chefs d'Alsace et du Bade-Württemberg qui ont vraiment la main sur le cœur et ça fait partie de ces quand on est destinataire de tant de gentillesse, on ne peut que vraiment être encore plus déterminé à ce que les projets se passent bien là-bas et à ce qu'il y ait des résultats. Bah, de toute façon, ça c'est l'avantage d'être une association de proximité, c'est que on peut venir nous demander des comptes en disant ben voilà, moi je vous ai donné où vous en êtes. On est complètement transparent dans nos actions, dans ce qui va et dans ce qui va moins bien, parce que voilà, parfois on a des petits revers, mais alors on se remet en cause, on se demande pourquoi est-ce que telle ou telle chose n'a pas marché comme on le souhaite, et on remet les choses à l'endroit et on y retourne. Mais voilà, c'est comme ça qu'on aime travailler aussi, et surtout cette confiance qu'on met en nous, ben voilà, on met un point d'honneur à ne pas la trahir.
Et donc il faudra du monde, hein, il faudra que les gens viennent au pavillon Joséphine. Ça, on en reparlera quand tu reviendras de ton voyage.
Ouais.
Tu nous expliqueras ce que tu as fait là-bas, comment ça a changé, évolué. Et on fera encore une émission spéciale avec d'autres membres de l'association ici à Radio Judaïka pour expliquer exactement, donner les horaires, les dates, tout ce qu'on va faire. Et on aura besoin de beaucoup de monde, parce qu'en fait, le pavillon Joséphine, sur les abords, il y a des abords où les voitures... on va voir si on peut avoir un parking complètement gratuit pour les gens. Ça, on va le travailler. Et ça avec le responsable des parkings de la ville de Strasbourg. Je vais le rencontrer les prochains jours pour voir si on peut avoir une gratuité pour les voitures, pour qu'elles puissent se garer, qu'on puisse même rentrer au pavillon Joséphine.
Dans tous les cas, il faut effectivement penser, si vous venez en pensant acheter de la vaisselle, c'est lourd et c'est encombrant. Donc il faut penser à emmener de quoi transporter la vaisselle jusqu'à la voiture.
Ouais.
Après, on peut essayer de trouver un système effectivement pour aider, mais c'est vrai que
Sylvie, merci d'être venue. Bon voyage. On va se quitter en musique, de la musique malgache. À bientôt pour te revoir.
Merci encore.
Et prends soin de toi. Et on n'a pas dit que tu partais avec un photographe des DNA pour faire un reportage là-bas.
Si, effectivement,
qu'on aura de temps en temps, on aura plein d'articles dans la presse locale. Et ça, c'est juste génial ce que tu as fait. Bravo Sylvie. À bientôt.
À très bientôt. Bon voyage.
Merci, on se quitte
beaucoup.
En musique. Nenge tilia kumale sala kaura wene sala kaufa matau tete u sala kaura wene sala kaufa matau sala kaura wene sala kaufa matau tete u huli famani tane mane nenge tilia kumale sala kaura wene sala kaufa matau tete u.